Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hilke.
Bonjour les curieux, on est heureux de vous retrouver à 14h sur RTL. Bienvenue dans l'émission qui regarde sous les jupes de l'histoire, de la science et de la musique. Vous allez bien Thomas?
Heureusement, j'ai pas de jupe. Comment
oui,
ça va Sidonie?
Bien fait, moi aussi j'ai fait attention aujourd'hui.
Dans la curiosité, jusqu'à 15h, on se passionne aussi pour les héros, les aventuriers, les animaux et, vous l'avez entendu, les coulisses de l'actualité.
Au menu du jour...
Je vais appeler le nouveau numéro 10, celui qui a accepté de rejoindre le Paris Saint-Germain, Da Silva Santos Junior.
La présentation de Neymar au Parc des Princes avec des sommes folles, 222 millions pour lui, 180 pour Mbappé, 145 pour Dembélé. Ce sont des joueurs de foot, le mercato qui se termine ce soir à minuit. On va vous présenter alors ceux dont on ne connaît pas les noms justement. Ces hommes de l'ombre, ces agents de joueurs qui gagnent eux aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent grâce aux transferts.
Et tout de suite sur RTL, des noms à la con.
RTL.
Alors le procès de Jeanne d'Arc se déroule comme tous les procès d'inquisition au Moyen-Âge. Il y a deux greffiers qui dépendent de l'évêque de Beauvais et un troisième greffier.
C'est-à-dire de l'évêque Cochon, le fameux Cochon.
La curiosité est un vilain défaut.
Les populations du Rhône, de l'Ain, tremblent sous la menace d'un tueur. Son nom, Martin Dumollard, le tueur de Bonne.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Ces drôles de noms nous font rire et derrière chacun de ces patronymes pas toujours faciles à porter, vous verrez des femmes, des hommes et des histoires pas tristes que l'on raconte avec l'historien Bruno Fulini. Bienvenue et ravi de vous retrouver à 14h.
Bonjour, à tout plaisir.
Salut, vous allez bien? Bienvenue. Vous êtes bien réveillé?
Oui, oui, tout à fait.
Parce que vous étiez un habitué de la curiosité du soir, c'est pour ça. Mais aussi de l'émission de Jacques Pradel, l'heure du crime.
Donc oui, vous êtes un horaire que je connais aussi.
Voilà, vous connaissez bien l'horaire.
Parmi ces noms qui nous font glousser bêtement et on ne s'en cache pas, il y a ce fameux Pierre Cochon, qui était-il? Vous nous rappelez son histoire?
Oui, Pierre Cochon est un Rémois, il est né à Reims, d'une famille d'ailleurs très connue là-bas, très riche. Il avait une parente qui s'appelait Rose Cochon et qu'on appelait Rose la Cochonne, mais à l'époque c'était pas du tout moqueur, c'était vraiment son surnom. Cochon va faire des études pour devenir prêtre, théologien, et il fait partie de ces clercs qui vont prendre parti contre les rois de France, Charles VI, puis Charles VII, et ils vont se trouver un nouveau maître d'abord du côté des Bourguignons, Jean sans Peur, le duc de Bourgogne, grand rival du roi de France, et après l'assassinat de Jean sans Peur, il refait une autre carrière avec un autre protecteur, là c'est du côté du roi d'Angleterre.
Quel est le fait d'armes de Pierre Cochon? Alors il faut préciser que Cochon, ça s'écrit pas C-O-C-H-O-N, mais C-A-U.
Oui, Cochon, ce qui peut signifier soit des origines cauchoises, le pays de Caux en Normandie, soit plus vraisemblablement une profession en rapport avec les chaussons, la fabrication de chaussons, d'objets pour se chausser les pieds. Eh bien, ce Cochon, sur le fond, il est devenu célèbre pour un grand fait, qui est le procès de Jeanne d'Arc, et surtout la manipulation à laquelle il se prête. Il faut bien voir que Cochon est vraiment un juge tout à fait partial. Alors déjà, les juges dans les procès d'inquisition, c'était pas forcément des gens très à l'écoute de l'accusé, mais en plus, il y a évidemment un enjeu politique important, et c'est lui qui va perdre Jeanne, puisque à un moment elle accepte de renoncer aux habits masculins, et puis il fait en sorte qu'elle soit tentée de reprendre des vêtements masculins dans sa cellule, et là elle est condamnée à mort comme relapse, c'est-à-dire comme étant revenue sur ses bonnes dispositions.
Alors cet évêque Cochon, il fait partie de ceux qui nous faisaient rire quand on était en classe. C'est un peu pour ça que vous avez écrit ce livre, l'évêque Cochon et autres noms ridicules de l'histoire, Bruno Fulini.
Oui, Cochon est le plus célèbre de ces personnage affublé d'un nom ridicule.
Il y avait un Merda aussi, je me souviens.
Alors, il y a le gendarme Merda, dont on reparlera. il y a, bien sûr, Sébastien Cabot, dont les instituteurs qui vous parlaient des grandes découvertes. Vous avez remarqué que Cabot n'avait découvert que des terres au nom de chien, le Labrador et Terre-Neuve. Bon, c'est impossible à oublier quand vous avez 8 ans, 9 ans, 10 ans et qu'on vous sort ce genre de nom et ce genre de pirouette. Évidemment, c'est gravé pour toujours dans la mémoire. Et c'est ça qui m'a amusé. Oui. C'est de partir à la recherche de ces personnages de l'histoire, histoire de France, histoire du monde, grande histoire ou petite histoire, eh bien, qui nous ont fait pouffer sur les bancs de l'école et qui, depuis, sont très difficiles à oublier.
Sauf que j'ai fait mon savant Bruno Fulini tout à l'heure quand j'étais pour quelques secondes dans RTL Midi, les auditeurs ont la parole avec Florence Cohen et Stéphane Caportier. J'ai dit, savez-vous ce qu'est un
caconyme?
Sauf que ce que j'ai appris dans votre livre, c'est quoi un caconyme ?
Un caconyme, c'est un vilain nom, étymologiquement, ouais. Un mauvais nom, un nom difficile à porter.
Cacos, c'est le mal, c'est ça, mauvais.
C'est mauvais, ouais. C'est ce qui est mauvais. Quand vous parlez d'une cacophonie, hein, c'est vraiment pas de la bonne musique. Et de la même façon, une caconymie, c'est le fait de porter un nom abominable. La bite, merda, cochon, c'est pas terrible.
Et j'en ai un formidable. Dans un instant, on va rencontrer un certain William Prout, enchanté monsieur, qui était-il ?
Et William Prout, nous devrions tous le connaître et je vous assure pourtant que lorsque j'ai commencé à chercher de façon pointue sur ces noms bizarres et que j'ai trouvé un Prout William dans un dictionnaire, j'ai cru moi-même à une blague. Je me suis dit, il y a un stagiaire chez Larousse qui a profité d'un moment d'inattention pour glisser.
Par exemple.
Voilà. Eh bien non, j'ai vérifié, il existe. Et en fait, c'est un Anglais, un très grand savant. Et figurez-vous que toute son œuvre tourne autour des gaz. Eh bien oui. C'est d'abord un homme qui s'est intéressé aux mécanismes de la digestion, au sucre gastrique, à la présence d'acide dans l'estomac. Bon, je ne veux pas, c'était meilleur. C'est à lui que nous devons la décomposition des aliments en graisse, glucides, protéines. Et puis ensuite, il s'est vraiment spécialisé sur les gaz, la molécule d'hydrogène, la composition des gaz. Sauf que, bien entendu, quel professeur de sciences naturelles ou de sciences physiques va vous parler de William Prout dans son cours.
Mais
c'est impossible.
Mais ça se prononce Prout, alors, plutôt.
Bien sûr.
Oui, ouais, enfin, bon, voilà. Bien sûr. Ça veut dire quelque chose, d'ailleurs, en anglais, Prout?
Non, justement. En Angleterre, il n'y a pas de problème, puisqu'on dirait fart pour la même chose. Donc là, aucun problème. Mais en France, c'est un immense inconnu, alors que, bien sûr, au Royaume-Uni, Sir William Prout, c'est évidemment un très, très grand savant.
Et nous, on rit bêtement.
Mais vous direz que c'est drôle. William Prout, ça, c'est un nom prédestiné. Ça porte un nom prédestiné, si je veux dire.
Alors, dans les caconymes, on pourrait distinguer effectivement un cas particulier qui sont les aptonymes, c'est-à-dire c'est un terme qui a été forgé par un pataphysicien qui s'appelle Alain Zalmansky et qui désigne les noms prédestinés, les noms qui se relient à votre profession ou à votre engagement politique. Par exemple, le franc-maçon La Loge, c'est un aptonyme très, très clairement. Et puis à l'inverse, il y a des inaptonymes, par exemple le colonel Dominé ou Monseigneur Lucifer, je vous assure que ça existe.
Mais non, un évêque Lucifer.
Il y a eu un évêque Lucifer.
Ou alors, j'en parlais tout à l'heure, un docteur bizarre et aussi un maire de Calais anticlérical notoire qui s'appelait
le gros dévot, vous imaginez, pour un anticlérical.
Et dans les aptonymes, donc ces noms qui prédestinent et qui sont un peu étranges, il y a un certain Auguste Denis Lagoutte. Quand a-t-il vécu, ce Lagoutte, et quel était son métier?
Alors Lagoutte, qui a vécu au 19e siècle, était un distillateur, un liquoriste si vous voulez, donc c'était déjà pas mal. Et il est très connu à Dijon puisque c'est lui qui a mis au point la recette de la crème de cassis.
Il est connu partout en France surtout.
Et alors avec son gendre qui malheureusement s'appelait Leget, ils ont formé une entreprise qui existe toujours et qui commercialise la crème sans laquelle vous ne pouvez pas faire un vrai kir.
Leget Lagoutte. Dans un instant vont entrer dans le studio de la curiosité la baronne de la queue, Eugène Labitte, Jean Lanus et Philomène Boudin.
Enchantée.
A tout de suite sur RTL Les Curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous.
14h-15h. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Un retour dans le passé pour retrouver l'aïeul de Sim, la fameuse baronne de la tronche en bien.
Un extrait des Grosses Têtes, version Philippe Bouvard, pour lancer cette séquence consacrée à ces noms improbables, ces noms ridicules de l'histoire. On a découvert William Prout, qui était un grand scientifique spécialiste des gaz, l'évêque Cochon, qui a fait brûler Jeanne d'Arc. On a aussi le poète Trocon, on a le docteur Bizarre. Bref, on en a plein de ces caconymes, grâce à l'historien Bruno Fulini. On les découvre. Vous réhabilitez aussi des personnages que, d'une certaine façon, on a écartés des manuels d'histoire parce que, justement, leur nom était trop improbable. Qui était, par exemple, Louise de Maison-Blanche, baronne de la queue?
Et oui, pauvre fille, c'est tout simplement une fille du roi Louis XIV, mais une fille naturelle. Louis XIV avait une favorite, la Montespan, et quand la Montespan se trouvait indisposée, ce sont des choses qui arrivent à des dames très bien, et bien il se rabattait, pardonnez-moi, mais il se rabattait sur la suivante de sa favorite, une certaine Claude Devin. Et il a fini par avoir une fille de cette servante, donc Claude Devin, qu'on a évidemment prénommée Louise, en l'honneur de son père, le roi Louis XIV. Alors, dans...
Jusque-là, tout va bien, elle est bien nommée.
Tout à fait. Simplement, ce qui aurait arrangé tout le monde, c'est que la petite Louise, grandissant, entre dans les ordres et soit un petit peu à l'abri dans un couvent.
Cachée quand même.
D'autant qu'elle avait une particularité, c'est qu'elle présentait une ressemblance physique extraordinaire avec son père, ce qui fait qu'elle n'avait le droit de se promener à Versailles que le visage couvert d'une dentelle. Parce qu'il était évident que c'était la fille du roi.
Mais alors, comment elle est devenue baronne de la queue ?
Eh bien, elle ne veut pas devenir religieuse, il faut donc la marier. Et ça, c'est embêtant, parce qu'il faut trouver un mari, il faut la doter, il y aura tout de même 40 000 livres, la livre étant la monnaie de l'époque, hein, 40 000 livres de dot, donc ça va coûter cher au trésor royal. Bon, donc le roi va faire ce qu'il faut, mais il y a une petite vengeance pas très gentille, on va lui trouver comme mari un hobereau sans grande importance, oui. Mais pour son nom, c'est le baron de la queue. Ça correspond à la commune actuelle de la queue en Yvelines, hein, tout
oui,
simplement.
D'accord.
Et donc elle devient baronne de la queue, ce qui, pour une fille naturelle du roi, finalement est un nom prédestiné. Je dirais que c'est un aptonyme a posteriori, en fait.
C'est vrai qu'on la rencontre pas dans les manuels scolaires, cette baronne de la queue. Ça veut dire qu'on en avait un petit peu honte, alors on l'a écartée, ou parce que c'est pas un personnage finalement si important?
Alors, en l'occurrence, c'est pas un personnage très important, mais de toute façon, je mets au défi à un professeur d'histoire ou un instituteur de tenir une classe en parlant de la baronne de la queue.
Et vous croyez qu'on tient nos auditeurs, nous, en parlant de la baronne de la queue
on a du mal à faire autre chose que glousser. Donc,
je pense que vos auditeurs ont le droit d'être dissipés, ce qui n'est pas forcément les élèves d'une classe.
C'est une grande récré chez nous.
Il y a un autre exemple où là, on a un personnage beaucoup plus illustre, c'est le chevalier de la Crotte. Je vous assure, je vous jure que pendant les guerres d'Italie, sous le règne de Louis XII, au début du XVIe siècle, il y a eu dans les armées françaises un chevalier de la Crotte, tellement valeureux d'ailleurs, que c'était en fait un compagnon d'armes du fameux chevalier Bayard. Et on les appelait...
Moi, j'ai jamais entendu parler du chevalier de la Crotte. Hein, ça, c'est
ben moi non plus. Avant de faire ce travail de fond, si vous voulez. et simplement, on les appelait les chevaliers sans peur et sans reproche.
Ah oui.
Mais quand on a commencé à écrire un petit peu le roman national avec ses grandes figures héroïques, eh bien, on a balayé la crotte et il n'est plus resté que le chevalier Bayard.
Alors, Bruno Fellini, dans votre livre « L'évêque cochon et autres noms ridicules de l'histoire » que vous publiez, on n'a pas cité l'éditeur, tiens, aux arènes, il y a aussi Eugène Labitte. Eugène Labitte, que faisait-il dans la vie ?
Alors, Eugène Labitte était peintre, hein, et il avait un bon coup de pinceau, bien sûr. Après, on peut multiplier ce genre de jugement.
Allez-y, on ne va pas vous censurer.
Mais surtout, ce qui est très troublant, c'est que les tableaux de Labitte représentent pour la plupart d'entre eux des couples plus ou moins enlacés. Et figurez-vous que son œuvre maîtresse, celle que l'on voit le plus souvent, s'intitule « L'étreinte ». Et il ne faut pas le confondre avec son contemporain Porphyre Labitte, qui lui était...
Joli prénom, ça. Soit, en plus.
Oui, qui témoignait d'une certaine rigidité malgré tout. Et Porphyre Labitte était un député qui a voté en 1884 la loi sur le divorce.
Alors j'espère qu'il n'était pas copain, Eugène Labitte et Jean Lanus. Comment ça s'écrit déjà et qui était ce monsieur ?
Alors Jean Lanus...
Si vous saviez le nombre de blagues pourries que je...
Que vous retenez ?
Voilà, que je retiens.
C'est tout à fait raisonnable.
Voilà, pour une fois.
Jean Lanus était un ecclésiastique et en même temps un combattant puisqu'il était tout simplement l'aumônier des Saint-Cyriens. Il a participé à un certain nombre de combats au 19e siècle, mais il est arrivé entier à un âge vénérable. Et donc il est devenu en 1898 évêque, donc on l'a appelé Monseigneur Lanus, et on disait que Monseigneur Lanus avait su éviter les trous de balles, bien sûr.
Mais alors attendez, ça veut dire qu'à l'époque quand même on en souffrait aussi un peu de ces noms particuliers, est-ce qu'on pouvait changer son patronyme ?
Alors beaucoup de personnages affublés de ce type de nom ont cherché à en changer, ont rusé. Par exemple, on a complètement oublié qu'il y avait dans les armées de la République, au moment de la Révolution, du début du consulat, un général Vachier. Et il a d'ailleurs sa rue dans Paris, mais pas sous son vrai nom, parce qu'il s'est illustré sous son surnom qui était Championnet. Et donc Championnet, qui était un très grand soldat, avait pour véritable état civil Vachier, mais il s'est débrouillé pour se rendre célèbre sous un nom d'emprunt.
C'est marrant,
si
parce que j'avais très longtemps, j'ai habité 10 ans, je viens de déménager dans la rue Championnet et j'ignorais cette histoire, je savais pas que j'habitais en fait.
Dans la rue Vachier.
Rue Vachier,
vous l'auriez peut-être pas choisi.
C'est jamais trop tard.
Vous avez des boudins aussi dans votre livre, Bruno Fellini. Notamment
notamment une certaine Philomène Boudin.
Oui, un chapelet de Boudin, effectivement. et alors, Philomène est sans doute la plus célèbre parce que elle s'est illustrée dans l'entourage de Verlaine. Au départ, c'est une prostituée parisienne, donc elle aurait dû sombrer dans l'oubli. Mais à la fin de sa vie, Verlaine la remarque, il est attiré par elle et elle va devenir sa partenaire, mais aussi un petit peu son inspiratrice, sa muse. Mais c'est une muse un peu pas très montrable, hein. un peu populacière, assez grossière. Elle est voleuse aussi. À plusieurs reprises, elle le dépouille de ses économies, mais ils finissent par se réconcilier. Il la revoit. Elle va vraiment l'accompagner dans ses derniers jours et il l'a célébrée. Voici comment il l'a décrit. Cuisse grosse mais fuselée, tendres et fermes par-dessous, dessus d'un dur qui serait doux, musculeuses et potelées. Donc Philomène Boudin était bien en chair.
Quand on vous dit qu'on soulève histoire. Les jupes de l'histoire dans cette émission, à tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
TLL. Savez-vous ce que c'est qu'un aptonyme ? C'est quand il y a une étonnante coïncidence entre la langue et la vie.
La curiosité est un vilain défaut.
Henri Poincaré, par exemple, était mathématicien. Et Jacques Delors, ministre de l'économie. Quant au général de Gaulle, lui, il était la France.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Des aptonymes, ces noms qui prédestinent, et des noms aussi à coucher dehors. Vous allez voir qu'on va découvrir dans un instant, ils nous passionnent ces noms, on découvre le destin de ces personnages aux drôles de noms avec l'historien Bruno Fuligny. Alors tout de suite, on va faire connaissance avec un certain Martin Dubollard. Alors il est costaud, celui-là, vous allez nous dire qui il était, à quelle époque il vivait.
Évidemment, c'était un très répugnant personnage, ce Dubollard. En fait, au départ, il a un nom d'origine hongroise, mais qui a été francisé sous cette forme. Il n'aurait pas dû être célèbre, parce que c'était une espèce de paysan un peu bonasse qui vivait dans la dombe. Simplement, de temps en temps, il allait à Lyon et là, avec son air de paysan un peu buté, il proposait aux jeunes domestiques qu'il croisait une bonne place dans un château loin de Lyon, mais où on vivait au grand air, on était bien traité, on gagnait deux fois plus. Et donc, en ayant l'impression de berner un pauvre paysan taré, ces jeunes filles le suivaient. Et puis, évidemment, la nuit tombait, il les massacrait, il les détroussait. Et
donc on ne parlait pas de serial killer, mais c'était un tueur en série pour l'époque.
C'était non seulement un tueur en série, mais c'est le premier tueur en série identifié, si vous voulez, même si le concept n'existe pas, parce qu'on est à l'époque sous le Second Empire. Ouais. C'est la première fois qu'un tueur récidiviste opérant sur des années et des années avec le même mode opératoire est arrêté, identifié. Il sera jugé et guillotiné. Et d'ailleurs, sa tête a été conservée, refaite, et vous pouvez donc voir à Lyon son portrait craché.
Est-ce qu'on peut donner un surnom à ce Martin Dubollard ?
On l'a appelé le tueur de Bonne. Et puis c'est surtout son nom, bien sûr, qui a été déjà infamant en soi.
Qui voulait parler de crachat, évidemment. Ça signifie le crachat, le Mollard, même à l'époque.
Oui, bien sûr. C'est un nom assez terrible à porter. Et ça a amusé d'ailleurs Flaubert. Parce qu'à l'époque où a eu lieu le procès, il était en train d'écrire un livre qui était un petit peu le procès de la bêtise, et il a eu envie de donner le nom de Dubollard à l'un de ses protagonistes. J'imagine que c'est son éditeur qui lui a dit que c'était un petit peu trop, et donc Dubollard est devenu tout simplement Bouvard, le compagnon de Pécuchet.
Bien sûr.
Bon, vous avez lu du Flaubert,
bien sûr,
forcément.
Moi j'adore ça. Mais est-ce que vous avez lu Jules Trocon ?
Non, j'avoue que Jules Trocon, j'ai jamais découvert l'œuvre de Jules Trocon. Et pourtant, Bruno Fuligny ?
Eh bien, il y a bien un écrivain et un poète qui s'appelait Trocon, et rendons-lui hommage, puisque, alors que c'est tellement facile pour un écrivain de publier sous un pseudonyme,
bien
lui a gardé son nom, a porté son nom, et c'est d'autant plus méritoire que lorsqu'il n'écrivait pas, lorsqu'il ne publiait pas des recueils de poèmes, eh bien il était instituteur. Et vous imaginez quoi, je suis en classe chez Monsieur Trocon, bonjour Monsieur Trocon, et vous pouvez encore aujourd'hui chez les bouquinistes trouver des livres ou des recueils de poésie de Monsieur Trocon.
Alors il a laissé une jolie chanson, est-ce que vous pouvez nous la fredonner ? Bruno Fuligny, vous chantez bien, il paraît.
Oh, je chante comme une casserole, mais je vais la fredonner. C'est pas très difficile, parce qu'en fait, ça s'inspire, c'est sur l'air de Auprès de ma blonde. Oui. Jules Trocon, qui était un écrivain stéphanois, était proche des vignerons du Forez, et donc il a écrit beaucoup de chansons à boire. Dans ce beau Forez que je chante, les raisins ont mûri, ils brillent sur toutes les pentes du pays. Envie dans son verre qu'on a du plaisir, envie dans son verre qu'on a du plaisir. Vous voyez, c'est vraiment Trocon, quoi.
très bien lui chanter.
On tient nos promesses dans la curiosité. On a dit tout à l'heure qu'on allait raconter l'histoire de ce monsieur
Monsieur Merda, Charles-Henri Merda. Alors ça nous ramène, lui en revanche, on nous en a parlé à l'école, ça nous ramène à quelle époque, Bruno?
Nous sommes à l'époque de la Révolution française. Merda est un gendarme et il s'est illustré au moment de la chute de Robespierre, puisqu'il fait partie de ceux qui entrent à l'hôtel de ville dans la pièce où s'est barricadé Robespierre et il lui tire dessus. Il lui fracasse la mâchoire d'un coup de pistolet. Alors s'il s'était appelé Lambert ou Duplantier, je pense qu'on ne l'aurait jamais même mentionné nulle part.
Mais là,
ce nom de Merda, alors est-ce qu'il Merda? Oui. Et puis vous savez que Robespierre, on l'appelait l'incorruptible. Donc Merda, c'est vraiment l'antithèse de l'incorruptible. Et alors Merda va devenir célèbre, mais quand même affublé d'un nom plus que médiocre. Et il va avoir une chance.
Pardon, je vous interromps. Est-ce qu'il le devient très vite? C'est-à-dire que ce choc entre le destin de Robespierre et le nom de celui qui l'a tué, est-ce que c'est utilisé par le pouvoir de l'époque ou par les historiens assez rapidement?
Non, c'est ultérieurement. C'est ultérieurement dans les manuels historiques, ouais. Dans l'historiographie de Robespierre, selon que vous êtes pour ou contre, vous, bien sûr. Merda incarne aussi la corruption des thermidoriens qui font tomber l'incorruptible. Et surtout, Merda va avoir une deuxième chance historique. C'est qu'après la chute de Robespierre, la mode va être de ne plus prononcer la lettre R, synonyme de révolution.
Donc on vous aurait appelé Buneau Fulini?
Par exemple. Pour vous, ça ne changeait rien.
Pour lui, on l'appelait Méda, du coup.
Mais on l'appelait Méda, et pour lui, c'était bien. C'est l'époque des incroyables et des merveilleuses, vous voyez. Ouais. Et Méda, qui va réussir à se faire anoblir sous l'Empire, et donc l'obscur et affreux Merda va devenir le baron de Méda, ce qui est tout de même un peu mieux.
En tout cas, ça fait réagir au 3210, parce qu'il y a Claude qui nous appelle et qui nous dit qu'il y a un professeur d'exégèse à l'Institut catholique de Paris qui s'appelle Jésus a sûrement dit. Ça ne s'invente pas. On le salue d'ailleurs.
C'est génial.
Merci beaucoup.
On a aussi trouvé une psy qui s'appelle Madame Barjot.
Ah oui, ça c'est notre directeur des programmes.
C'est pas mal non plus, c'est Jacques Expert.
Qui nous en a donné l'idée. Merci
Bruno.
Bruno, vous publiez L'évêque cochon et autres noms ridicules de l'histoire. On en a vu une vingtaine, mais il y en a 200 dans votre livre. À très bientôt, c'est aux éditions Les Arènes.
Vous écoutez RTL.